dit la presse ?
Bonjour à tous pour votre fidélité au programme de Crystal News et surtout bienvenue dans ce programme de décryptage de l'actualité vue par les quotidiens parvenus à notre rédaction ce jour. Que dit la presse ? C'est le nom de l'émission et nous sommes ce mercredi 24 juin à son troisième numéro. Avant de donner la parole aux confrères en studio avec moi, nous allons parcourir la livraison de quelques journaux de ce jour. Nous commençons par le quotidien La Nation qui titre en manchette, Assemblée nationale, les lois créant les forces armées béninoises et la police républicaine modifiées, des statuts spéciaux adoptés. Évaluation des politiques nationales, une nouvelle performance à l'actif du Bénin. Soutien des fonds arabes à l'ambition du chef de l'État, 156 milliards CFA pour la chaîne énergétique. Chasse à la battue à Parakou, une passion qui résiste au temps. Un autre quotidien à présent, nous passons à la tribune de la capitale qui titre le journal Confinement dû au coronavirus dans le Mono, 57 cas de grossesse détectés en milieu scolaire. Justice béninoise, une femme condamnée à 20 ans de prison pour usage illicite de ses seins. Nous passons à un autre canard, l'affiche du jour qui titre Protection des données à caractère personnel au Bénin. Le code du numérique au cœur d'un atelier au médiateur de la République. Matin libre. Folklore des dirigeants à chaque inondation halte. La population veut du concret. Un autre titre dans ce journal. Quatrième mandature de la décentralisation. La loi interprétative déjà éprouvée. Tangbo, des conseillers boycottent la deuxième session ordinaire. Covid-19, le Bénin approche la barre des 1000 cas. Parakou, avec les chefs quartiers, Aboubakar Yaya, définit une feuille de route. Grave accident de circulation à Cotonou, un camion tue deux usagers. Titre le journal à la page 5. Développement agricole et commercial du Bénin, Léonard Sebio, une compétence. C'est un portrait que décrit ici le journal. Le quotidien Djakpata à présent. Bonne gestion du Covid-19 par l'administration Talon, la prime à l'efficacité de l'agence Standard et Poor. Quatrième mandature de la décentralisation au Bénin, tous les nouveaux CA de Cotonou désormais dans leurs fonctions. Paiement des frais de campagne aux journaux et si la HAC écoutait le CNPA pour atténuer la colère des patrons de presse. Voilà pour les titres parus ce jour au Bénin et qui sont parvenus à notre rédaction.
Que dit la presse ? Que dit la presse ?
Je retrouve en studio les confrères déjà installés. Josaphat Dabolino, bonjour.
Bonjour à vous, Jean-Luc Gadji.
Martial Agoliabo, bonjour.
Bonjour, Jean-Luc Gadji.
Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. Josaphat, je commence par vous. Vous êtes journaliste à la rédaction de Crystal News. Nous commençons avec le quotidien Matin Libre qui revient sur la question cruciale des inondations au Bénin. Les inondations chez nous, c'est carrément récurrent à chaque saison.
Oui, ce n'est pas nouveau. C'est un phénomène cyclique et il faut comprendre ça de cette façon. Et surtout dans nos villes capitales, c'est plus remarqué. Les inondations, on ne peut quand même pas l'empêcher. Ça fait partie du loi de la nature. C'est quand même bien sûr la saison. Et quand c'est la saison pluvieuse, comme je le disais à l'instant, c'est un phénomène cyclique. Donc on sait déjà à quel moment et il doit avoir plu. On sait déjà à quel moment nous devons avoir le soleil également pour la sécheresse. Donc, c'est un phénomène a priori qu'on devrait déjà maîtriser et pour savoir, en tout cas avec nos spécialistes de la météo, la pluviométrie qui s'annonce et comment on doit y faire face. Et c'est quand les spécialistes vont déjà faire le diagnostic et produire le rapport envoyé aux responsables, maintenant en tout cas à l'administration publique centrale ou délocalisée, et c'est ces administrateurs, ou du moins ces responsables de ces administrations qui devront désormais prendre les mesures nécessaires, que ce soit les mesures politiques et sociales, pour essayer d'éradiquer, pour essayer de stopper l'inondation. Mais malheureusement, on sent que le travail n'évolue pas trop. Il y a une défaillance au niveau de nos experts qui devraient quand même évaluer pour produire les rapports, en tout cas pour ce que nous savons. Et également, les politiques qui, malheureusement, sont aux affaires, mais qui peinent véritablement à maîtriser ce cycle et à agir dans le sens de mettre fin à ça. Mais quand on parle d'inondation également, ce n'est pas forcément au Bénin, puisque vous savez que nous sommes sur le net et que c'est une radio en ligne. Ce n'est pas seulement sur le Bénin. Si vous suivez l'actualité hors du Bénin, vous allez constater que juste à côté ici, en Côte d'Ivoire, il y a dans la grande capitale également de l'inondation. Et là encore, c'est pire parce qu'il y a même déboulement et c'est très grave avec des dégâts beaucoup plus colossaux. Mais malheureusement, pour les Abidjanais, ici à Cotonou, nous n'avons pas encore de cas aussi graves, mais nous avons l'impraticabilité juste de nos voies et ça inquiète. Maintenant, au-delà de Cotonou, il y a aussi les communes environnantes, bien sûr, qui subissent également les affres de l'inondation. Mais comme je le dis, c'est un phénomène cyclique et on devrait quand même, en tout cas à mon humble avis, trouver des moyens, essayer de planifier pour éviter au mieux ces inondations.
Martial, Matin Libre, titre folklore. Les dirigeants, à chaque inondation halte, la population veut du concret.
Oui, du concret, parce que vous voyez, c'est un problème récurrent et plusieurs dirigeants ont pris par là, mais malheureusement, on constate qu'à chaque saison pluvieuse, qu'il y a toujours une inondation. À cet effet, je dirais que les dirigeants ont péché, parce que vraiment, mettre donc la vie des populations en danger, c'est un problème très grave. Et comme l'a dit tout à l'heure mon cher confrère Josaphat, il faudrait désormais une planification efficace, parce que nous savons déjà à quel moment il y a donc saison pluvieuse et à quel moment donc le soleil brille. Et à cet effet, il faudrait désormais que les dirigeants donc sachent ont gardé et fassent une planification digne du nom afin d'éviter le pire.
Vous trouvez que à chaque fois les dirigeants s'écartent du concret ou ils vendent de l'espoir à chaque élection et puis après on retourne avec nos vieux démons?
Oui, je pense qu'il y a la politique politicienne, parce que vous savez, quand la vie donc des citoyens est en danger, il faut prendre des mesures drastiques en fait pour sauver en fait ces populations, parce que au cours donc des dernières années, nous avons constaté que certaines même ont quitté leur maison pour aller donc s'installer dans les écoles, voyez-vous, pendant plusieurs mois. Et depuis 7 ans, qu'est-ce qu'on a fait donc pour protéger la vie de ces citoyens-là? Il faudra désormais une planification digne du nom pour éviter à ce que nous assistons à ces genres de problèmes qui ne permettent pas également donc l'évolution de nos enfants. Plus, voyez-vous, les enfants qui sont donc habitués à des inondations, c'est le choléra donc qui sévit à ce niveau-là, et il faudrait désormais que nous prenions donc conscience pour planifier et afin d'éviter également ces problèmes-là.
Josaphat, aujourd'hui, Cotonou est sous l'eau, Aboumekalavi également, Semekoudi, pratiquement toutes les communes victrines de notre pays, les communes phares de notre pays sont confrontées à ce problème et ça ne finit jamais pratiquement.
Non, ça ne va pas finir parce que l'incivisme continue de dicter sa loi. Ça ne va pas finir parce que la population continue de se mettre sur les bassins d'eau. Ça ne va pas finir parce que déjà les mêmes citoyens qui crient aujourd'hui décident unilatéralement ou même sans l'avis bien sûr des autorités de s'installer sur des plans d'eau, ce qui fait que l'eau ne peut pas circuler. Et c'est peut-être à ce niveau qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent, sur la sensibilisation, de faire comprendre aux populations qu'en fait, que si vous vous installez le chemin de l'eau, ça risque de bloquer non seulement la voie à l'eau, mais également de créer des dommages à ceux-là qui vous entourent, donc à la communauté. Et c'est cette communication qu'on devrait normalement faire. Mais je crois que chaque acteur le fait, en tout cas, ce n'est peut-être pas assez, pour faire comprendre raison à cette population qui, malgré tout ce qui fait dit, veulent tous rester, en tout cas, je parle des citoyens, ces citoyens veulent tous rester au niveau de la ville Cotonou, des villes Cotonou, Semekoudi, ou les villes environnantes, parce qu'on se dit, il y a plus d'activités à ce niveau.
Et ça, c'est la responsabilité du citoyen, vous abordez là. Et qu'est-ce qui concerne aujourd'hui le dirigeant? Qu'est-ce que le dirigeant peut faire aujourd'hui pour quand même corriger un tant soit peu la situation? Voilà le citoyen qui s'est déjà installé sur une voie. Je prends un exemple comme ça. À ce niveau, un citoyen qui s'est déjà installé, comment l'amener à tendre raison? Comment corriger la situation? Quel est le rôle du dirigeant politique?
Non, je crois qu'à part la sensibilisation sur laquelle je mettais l'accent, il faut sévir, il faut réprimer. C'est-à-dire, d'abord, on ne peut pas s'installer. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous installer comme ça. Il faut l'autorisation, il y a le certificat de construire, il y a le certificat d'habitation. Donc, et qui donne ça? Ce sont les autorités communales et municipales qui donnent ça. Donc, si je me présente avec mes papiers, je dis, OK, je suis Josaphat, je vais m'installer dans quelle zone, dans tel lot, et que d'office, ils savent qu'en fait, que c'est le chemin de l'eau et ils se disent oui, parce que j'ai peut-être mis du caillou sur mon papier, je le dis dans ce français un peu vulgaire, et du coup on me dit oui, allez-y, vous avez le certificat, allez construire, allez habiter, et que 4 ans après ou 5 ans après, la même autorité vient pour dire je vais te déguerpir parce qu'entre-temps je t'ai délivré un certificat et que normalement tu ne devais pas t'installer là. C'est là un peu le paradoxe. Donc le citoyen a cette l'obligation de respecter, de savoir qu'en fait qu'à un moment donné il ne peut pas s'installer à ce niveau et la sanction doit continuer. Mais les dirigeants doivent également comprendre que délivrer des attestations d'habitation, de construction à des citoyens relève également de leurs compétences et ils doivent faire beaucoup plus attention pour ne pas les installer. Puis après tout, ce sont ces autorités-là qui les installent. Je crois qu'au niveau local, il y a ce travail à faire. Et au niveau central également, c'est qu'il faut délocaliser un peu les administrations. Si vous avez tout concentré dans Cotonou, par exemple, Cotonou qui déborde déjà de monde et que tout le monde devrait s'installer à Cotonou parce qu'il y a les administrations qui sont là, parce que l'activité est plus concentrée à ce niveau. Donc, on se dit, si je ne reste pas à Cotonou, je reste dans les communes environnantes, ce qui fait d'ailleurs que les communes environnantes aujourd'hui commence pas à connaître ce phénomène également. Donc c'est l'administration centrale qui devrait penser à délocaliser et à promouvoir d'autres villes. On a vu des pays qui ont quand même essayé de créer de nouvelles villes. Pourquoi ne pas faire par exemple de Porte-Nouveau qui a quand même un emplacement, qui est un bel espace de promotion de l'administration, installer ses administrations, ou pourquoi ne pas créer une autre ville complètement à l'intérieur du pays, quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire vers le centre ou vers le nord complètement, pour créer d'autres pôles de richesse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ça relève plus de l'administration centrale avec la politique gouvernementale et qui pourrait le faire. Mais si tout va rester toujours à Cotonou, et vous savez, on n'a même pas encore fini de parler. Hein. On est aujourd'hui en 2020. D'ici 2030, d'ici 2040, vous allez voir que ça va encore prendre un pic parce que des gens qui s'installent encore, ça va encore prendre un pic. Et véritablement, moi, je crains le pire dans 10 ans et dans 20 ans.
On reste pratiquement sur le même sujet, urbanisation anarchique des zones agricoles, nécessité pour les nouveaux maires de revoir les opérations de lotissement. C'est pas vraiment le même sujet parlant d'inondation, mais ça concerne le lotissement et ça concerne la gouvernance locale, Martial.
Oui, mais depuis l'avènement de la rupture, je pense qu'il y a un travail qui se fait parce qu'aujourd'hui, on a eu à mettre sur pied une agence donc qui dirige les choses. Les maires, on a constaté qu'il y avait plusieurs dérives à ce niveau-là. Donc, je pense que l'autorité centrale a pris des mesures drastiques pour éviter le pire à ce niveau parce qu'il y a trop de complicité, que ce soit donc au niveau des municipalités et également au niveau des élus locaux, notamment les chefs quartiers et consorts, et qu'ils font vraiment de désordre par rapport à cette situation. Il suffit donc d'avoir assez de ressources pour donc créer des psychoses dans certains quartiers ou bien certains chefs de village de nos communes au Bénin. Donc je dirais que l'appel en fait à l'endroit des maires ne produira pas assez d'effets parce que aujourd'hui tout est concentré, comme l'a dit Josaphat tout à l'heure, au niveau central. Et je pense que c'est à nos autorités donc au niveau central de prendre des mesures. C'est vrai que le maire serait donc je dirais un observateur consultatif, mais quitte maintenant à l'agence décentralisée de faire le travail afin qu'on évite ces gens donc de problèmes d'humanisation anarchique des zones rurales.
Sur la question du lotissement, Josaphat.
Je crois que c'est un problème épineux, hein, parce que les autorités communales et municipales n'arrivent toujours pas à s'en sortir, à part bien sûr les grandes villes. Quand je parle de grandes villes, il y a Cotonou, il y a Porte-Nouveau, il y a Paracour, c'est-à-dire nos trois communes à statut particulier qui ont quand même réussi un temps soit peu à essayer, je dis essayer bien sûr, de régler la question. Mais si nous sortons bien sûr de ces communes à statut particulier, que nous entrons dans les villes, même la grande ville qui est la plus grande, en tout cas en matière de population. À Bomey-Calavir, vous allez dans ce niveau, c'est le pire. Et vous savez que c'est une commune environnante à Cotonou.
Mais il y a quand même des lois qui régissent le lotissement chez nous.
Oui, mais c'est comme vous me demandez s'il n'y a pas des lois qui régissent, bien sûr, la profession du journaliste et pourquoi on interpelle les journalistes sur le fameux code du numérique. Non, nous avons des lois. En fait, le Bénin ne manque pas de législation en la matière. Nos législateurs ont quand même fait le nécessaire, même si parfois on sent de copier-coller en matière des lois. Ils ont fait quand même le nécessaire pour doter le pays de la législation nécessaire afin de le voir mieux gouverner. Mais malheureusement, comme l'a dit certains dans ce pays, ce n'est pas une question de tests, c'est une question de tête parce que des gens qui sont appelés à respecter la loi, des gens qui sont appelés à appliquer cette loi, n'arrivent pas à le faire. Du coup, nous nous retrouvons dans un espace, dans un enclos de non-droit où les lois existent, le test est là, mais on se dit, nous passons à côté. C'est exactement ce qui se passe avec le lotissement. Vous allez dans la commune d'Akpromisreté, qui est une commune frontalière à Porte-Nouveau, la capitale du pays. Vous allez constater que les efforts qui se font, malheureusement, n'ont pas pu donner la promesse parce qu'on se dit, c'est moi qui suis là, moi je vais faire ce qui m'enchante. Et vous savez qu'au Bénin, la terre importe beaucoup plus pour les citoyens. C'est que si vous êtes béninois et que vous n'avez pas votre parcelle, c'est que ça vous manque quelque chose. Donc c'est, la terre est tellement sacrée pour le béninois comme l'enfant l'est également pour lui. Donc il est important pour chacun. Et dans cette course d'avoir sa parcelle, on est prêt parfois à tout et à n'importe quoi pour l'avoir. Et ce sont beaucoup plus les chefs services des affaires domaniales de nos mairies qui sont plus exposés, mais qui se lance également dans cette magouille. Je dis magouille bien sûr parce qu'on a vu des chefs services des affaires domaniales interpellés à la cour, même emprisonnés par la suite toujours pour des affaires domaniales. Et si vous allez au tribunal, que ce soit au tribunal de première instance, de première classe de Porte-Nouveau ou à Cotonou ou surtout à Bomey-Calavir ou à Boïcon, vous allez constater que les dossiers concernant bien sûr les litiges domaniaux sont tellement nombreux et sur la table des juges. Pourquoi? Parce que chacun veut avoir sa parcelle et qu'une parcelle que chacun a, on veut quand même revendre ou peut-être on s'est entendu avec le chef quartier qui, en accord avec le chef service au niveau de la mairie, fait tout pour te trouver une parcelle et du coup, des années après, les héritiers, les vrais héritiers se lèvent pour changer. Le lotissement, c'est une question, mais je crois que le gouvernement est en train de planifier, en tout cas, j'ai vu un test circuler, c'est pas l'authentifier, je ne peux pas l'authentifier en tout cas pour l'instant, mais j'ai vu un test circuler où déjà le secteur sera mieux assermi avec la réglementation qui est en vue et qu'à partir de 2023 plus précisément, il y aura plus de cessions de terres par des autorités communales, donc tout sera centralisé par une agence. Et Martial le disait tout à l'heure, nous avons quand même une autre agence qui s'occupe des affaires foncières dans le pays. Mais malheureusement, les efforts de cette agence ne sont pas encore aussi viables pour profiter aux citoyens lambda.
Nous allons changer de sujet. Je reste avec vous, Josaphat. On change également de canard. La Nation, Assemblée nationale, les lois créant les forces armées béninoises et la police républicaine modifiées. Des statuts spéciaux adoptés.
Oui, je crois qu'il était vraiment temps parce que les hommes en uniforme se plaignaient toujours. Et quand on avait annoncé il y a quelques années, à 4 ans environ, qu'on devrait faire la fusion entre la gendarmerie et la police, il y avait eu des grincements de dents. Il y avait des généraux qui étaient contre. Il y avait des acteurs même qui étaient contre. Et on a vu l'exécution. La cohabitation n'était pas aussi facile. Donc, il fallait que le législateur revienne pour expliquer, pour instituer maintenant un statut particulier.
Vous avez dit tout à l'heure, Josaphat, que les lois ne changent pas grand-chose pratiquement chez nous.
Oui, mais malheureusement c'est, quand je dis ça, j'ai globalisé un
Est-ce
peu.
Est-ce qu'il y a espoir aujourd'hui que cette loi-là change quelque chose dans le quotidien des forces armées béninoises?
Non, mais ils ont toujours chanté, ils ont toujours réclamé, d'ailleurs, je vais le dire. Mais s'ils ont, j'ose bien croire que ça ne soit pas mi-mangan, ça dit prenez, lâchez-moi les bottes, quelque chose comme ça. Mais tout au moins, on a eu législation en matière maintenant. Et c'est à eux maintenant de faire appliquer la loi. C'est comme, par exemple, une autre loi pour les statuts particuliers des artistes que je réclame ou que des artistes aussi réclament aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour dire que si parce que vous réclamez pendant des années et que le législateur vous dote de cette loi, que c'est fini. Il faut maintenant agir, que c'est maintenant que le travail commence, c'est-à-dire les acteurs à divers niveaux de cette corporation devront désormais savoir que oui, nous avons une législation qui s'occupe de nous avec un statut particulier, avec tout ce qui va les avantages et nos prérogatives. Nous devons maintenant faire appliquer, c'est de mettre la pression sur des gens. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, en France particulièrement, où déjà les forces de l'ordre savent déjà quoi faire, quand le faire et comment le faire. Aujourd'hui, peut-être ils le savent, mais il y avait ce manque de cadre juridique. Maintenant, nous en avons, vivement que ça soit appliqué et vivement qu'il en soit aussi conscient pour faire appliquer la loi.
Martial, est-ce que selon vous, aujourd'hui, cette loi va quand même changer quelque chose chez les forces armées béninoises et la police républicaine?
Oui, je pense que le terrain est définitivement balisé, parce que si nous prenons d'abord le cas des ex-gendarmes et de la police où il y avait fusion en 2017, il y avait vraiment un problème crucial à ce niveau, puisque les gendarmes n'ont eu aucune promotion pendant 4 ans et on ne savait pas donc comment les classer. Mais aujourd'hui, il y a une classification normale à ce niveau-là, puisque aujourd'hui la police républicaine a un corps constitué donc de 3 pôles, voyez-vous. Donc il y a les officiers généraux supérieurs, également les officiers supérieurs et les petites classes, ça veut dire les brigadiers, les sous-brigadiers et consorts. Donc maintenant on peut définir, c'est-à-dire le rôle attribué à chaque gendarme, ex-gendarme, je dirais, parce que on peut maintenant aujourd'hui les faire avancer de façon proportionnelle, et je dirais que c'est déjà un pas à ce niveau-là. Également, on a retouché, donc on a abrogé un tant soit peu les articles 2 et 6 donc de la loi créant la police républicaine à ce niveau-là, et ces articles 2 et 6 qui ont été abrogés permettent désormais de connaître également les hauts fonctionnaires en fait de la police républicaine et de promouvoir un tant soit peu ceux qui étaient des lieutenants, des capitaines et commandants ex-gendarmes. Voyez-vous, donc le terrain est balisé et à ce niveau, c'est un nouveau soulagement. Également, nos militaires qui souffrent, voyez-vous, qui souffrent surtout ceux qui sont sur le grade de sergent et caporal et consort, qui souffrent parce qu'ils n'ont eu aucune promotion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Avant, vous aurez constaté qu'il y avait 2 certificats, voyez-vous, de qualification au niveau des militaires. Aujourd'hui, on a réduit maintenant à 1 seul certificat pour donc accéder au corps. Voyez-vous, donc c'est déjà une promotion à ce niveau-là. Et comparativement donc aux autres forces police républicaines et également douane au niveau donc des forces armées béninoises, on a par rapport au diplôme qui donnera désormais accès donc à ces corps, on a donc ajouté au niveau des forces armées béninoises le brevet d'études donc de premier cycle qui est le BPC, en plus donc de la licence et du baccalauréat. Donc c'est déjà une prouesse pour permettre quand même à ceux qui sont, je dirais, en bas du tableau, je parle donc des sergents et consorts qui n'ont aucune promotion, désormais d'évoluer avec ce seul certificat de qualification militaire. Donc c'est déjà un pas, c'est un nouveau soulagement.
Vous gardez donc espoir.
Oui, tout à fait.
Alors nous allons continuer avec vous, nous restons avec vous Martial. Aujourd'hui, le code du numérique est un atelier aux médiateurs de la République. Le code du numérique que les journalistes dénoncent. Josaphat a même fait une parenthèse tout à l'heure pour pouvoir pointer du doigt ce code qui cause tant de mal aux professionnels des médias.
Oui. Depuis hier, donc le médiateur de la République, Joseph Yonofon, a lancé les travaux et il compte s'approprier en fait du contenu relatif donc à la protection des données à caractère personnel, parce que vous savez que au niveau du médiateur de la République, il y a plusieurs dossiers donc qui sont étudiés, des plaintes donc des au niveau des citoyens qui travaillent au niveau des administrations publiques, voyez-vous, et c'est purement du numérique à ce niveau-là, parce que depuis ils ont quitté donc l'analogique au numérique, et il faudrait se méfier, parce que quand on parle surtout des données à caractère personnel, si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver devant donc les juridictions compétentes, et à ce niveau-là il faudrait donc doper en fait donc le niveau des cadres qui sont au niveau de l'institution, renforcer les capacités désormais pour savoir à quel sein se vouer, parce que, comme l'a dit Josaphat, c'est vrai, ce code de numérique crée beaucoup de tollé. Et si vous ne savez pas faire, d'ici même une petite seconde, vous allez commettre une petite faute et on vous envoie devant donc la cour. Je pense que le CNPA également donc l'UPMB sont en train donc de mener des lobbies afin que cette loi se retrouve du côté du Parlement pour qu'il y ait un peu de retouche à ce niveau-là.
Vous évoquez le Parlement, c'est encore là les politiques qui ont tout intérêt à maîtriser, peut-être, je ne sais pas, la parole dans les médias.
Non, à cette étape, déjà, il faut retenir que le CNPA et également le PMB étaient déjà à l'Assemblée nationale, rencontré le président de l'Assemblée nationale, qui a souhaité qu'une fois que ce test de loi retournerait au Parlement, qu'on va solliciter en fait leur expertise afin qu'ils apportent des doléances pour des modifications à ce niveau.
Josaphat, le code du numérique qui cause tant de torts aux journalistes, j'ai vu des journalistes être interpellés à la base de ce test de loi.
Non, mais d'abord, Jean-Luc Gallier, permettez-moi de saluer la justice béninoise, permettez-moi de saluer l'homme qui aujourd'hui est considéré, en tout cas chez moi, comme un héros, parce que aujourd'hui il recouvre sa liberté. Je veux nommer notre confrère Ignace Soussou qui, dans quelques heures, parce que nous sommes en direct dans l'après-midi d'aujourd'hui, doit quitter les barreaux, bien sûr, de la prison civile de Cotonou pour recouvrer intégralement sa liberté. Et toutefois, c'est une bonne nouvelle. C'est pour dire qu'en fait, qu'il a été coffré, comme on le dit, entre guillemets, avec ce code numérique, juste parce que il a relayé des propos du procureur de la République sur ses comptes de réseaux sociaux, et juste pour ça on l'interpelle alors qu'il est journaliste, et il a prouvé qu'il est vraiment journaliste et que son métier qu'est-ce que d'être journaliste. Et ça dit qu'en fait que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que quand tu publies sur ta page Facebook ou Twitter ou sur les réseaux sociaux, en tant que journaliste tu relais des propos. Est-ce que nous sommes inquiétés? Est-ce qu'on doit nous interpeller parce qu'on a relayé, parce qu'on a formé, on a informé notre public? Parce qu'au-delà de tout, un journaliste qui est inscrit sur l'un des réseaux sociaux, c'est quand même toujours journaliste, et il a l'obligation de former, parce qu'on a prêté serment presque pour ça.
D'informer.
Est-ce que véritablement, si je relaie des informations sur ma page Josaphat, est-ce que je suis en train d'enfreindre à la loi? En tout cas, c'est la question. Vous savez, les journalistes se sont battus, moi y compris.
Beaucoup de journalistes prennent la parole sur leur compte Facebook ou Twitter.
Oui, justement, c'est quand même un
et
canal.
Et ailleurs, c'est ça qui se développe peut-être beaucoup plus.
C'est quand
plus.
Même un canal d'expression, d'information également, parce qu'aujourd'hui, pour s'informer sur des personnalités, sur des gens, même sur un journaliste, sur un acteur, il faut aller sur sa page, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram ou bien d'autres. C'est un canal de communication aujourd'hui. On ne peut pas. Nous sommes à l'ère du numérique. Et vous savez que nous nous sommes battus, en tout cas moi y compris, à véritablement avoir le code de l'information et de la communication.
En 2015.
2015. Et c'est venu, on a fait des luttes, des décennies d'abord avant que ça ne vienne en 2015. Mais aujourd'hui, le législateur, pour nous contrer, en tout cas pour nous dire oui, véritablement, vous avez la liberté de presse. C'est pour ça que je dis, il ne suffit pas seulement d'avoir les lois votées, il suffit d'agir et de les faire appliquer. Aujourd'hui, nous avons le code de la communication et de l'information, mais malheureusement, juste à côté de ce code, le législateur nous a doté fortuitement d'un code du numérique, et vous voyez déjà la densité de ce code du numérique, et comme on le dit souvent, le diable se cache dans la longueur. Et effectivement, il y avait le diable qui s'est caché dans la longueur de ce code, et finalement vous êtes beaucoup plus inquiétés si vous êtes sur les médias sociaux, si vous voulez faire du numérique, alors que le même gouvernement, en tout cas le gouvernement de Patrice Talon, dit aujourd'hui nous voulons faire du numérique un vecteur, nous voulons faire du numérique véritablement un pôle de développement où la communication doit être accentuée. Et vous n'êtes même pas sans savoir que toutes les communications presse du gouvernement Talon aujourd'hui, c'est presque digitalisé. Pour avoir la vraie information, il faut aller sur leur compte. Alors qu'en fait, que ma grand-mère au village ne le sait peut-être pas. Et pourtant, ils ont dit, nous voulons mettre l'accent sur le numérique. Mais pourquoi, à côté de ça, on met un code et on cache dans ce code des diables, je dirais des diables, pour nous empêcher d'être d'exercer en tant que journaliste. Moi, et bien d'autres journalistes, nous sommes des journalistes formés, et nous n'avons que cette profession, nous ne faisons que ça. Et si À un moment donné, on doit nous empêcher, alors que nous avons un code de l'information, de la communication, qui nous protège, qui nous donne plein avantage, et qu'à côté, nous avons le code numérique qui nous empêche véritablement de faire notre travail, alors il y a un problème. La relecture, est-ce que ça va porter? Si ça porte, ça va aller dans quel sens? Aujourd'hui, nous savons, bien sûr, la couleur de ces députés qui sont à l'Assemblée nationale. Nous avons vu la précipitation avec laquelle des lois étaient votées sans études approfondies, j'allais dire. Et nous renvoyons en quelque sorte notre code dans les griffes de ces parlementaires qui doivent quand même décider, qui doivent quand même examiner à nouveau en des griffes parce que leur examen véritablement ça pose un problème avec certains tests que nous avons vus. Et moi je suis inquiet, mais vivement que le bon sens, l'intelligence puisse les guider et qu'ils ne soient pas véritablement des copies-collées comme on l'a constaté, et, mais que ça soit véritablement des tests véritablement rédigés, examinés et adoptés véritablement à la béninoise.
Encore une fois, est-ce qu'il y a espéré aujourd'hui que quelque chose de, je veux dire, que le salut des journalistes vienne de ces ateliers sur le code du numérique?
Non, du tout pas. Moi, je suis contre ces ateliers. Alors, vous voulez faire le bonheur de quelqu'un et vous l'écartez. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des acteurs peut-être qui ont été invités, mais les séminaires n'ont jamais réglé. Vous savez, il y a un acteur politique qui a dit dans le Bénin, en fait, que pour berner le peuple béninois, il faut créer des commissions, il faut faire des séminaires, il faut faire des ateliers. Moi, je crois qu'en fait, ce qui se fait, c'est peut-être un pas, mais ça profite beaucoup plus aux initiateurs, ça profite beaucoup plus aux participants. Le vrai problème aujourd'hui, c'est même si on ne doit pas retoucher la loi, dans quelle mesure on peut l'appliquer? Parce qu'on dit souvent, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Maintenant, aujourd'hui, dans quelle mesure on peut l'appliquer? Est-ce qu'on va se baser sur des dommages émotionnels ou j'ai été blessé par émotion parce que vous avez relayé mes propos? On va se baser sur ça pour juger le journaliste que nous sommes. C'est la grande question. Est-ce que c'est l'atelier initié, organisé qui va nous permettre véritablement de sortir de ce pétrin? En tout cas, c'est des grandes interrogations et moi j'ai des doutes. Et pour des séminaires, des colloques et blablabla, moi je suis parfaitement contre ça parce que ça ne profite aucunement à la corporation. C'est vrai qu'il faut trouver des cadres de réflexion, des espaces de réflexion, mais au-delà de réflexion, les résolutions sont beaucoup plus rangées dans les placards. Je crois que les états généraux de la presse sont déjà tout résolus. Il y a les résolutions qui sont sorties de ces états généraux de la presse. Faisons sortir ces résolutions, travaillons là-dessus et le problème ne se pose plus. Mais quand on dit séminaire, colloque et tout le reste, alors que le travail avait déjà été fait au niveau des états généraux de la presse, alors il y a un problème.
Mais il faut retenir tout simplement que la loi sur le numérique ne concerne pas uniquement ou exclusivement les journalistes. Pour finir sur cette question, Martial, comment vous voyez ces ateliers? Nous avons eu l'avis de Josaphat. Ces ateliers pour expliquer ou pour mieux comprendre les lois, notamment la loi sur le numérique. Est-ce qu'il y a espoir aujourd'hui que le salut vienne de là, tout ce qu'on dénonce dans les médias soit corrigé un jour?
Oui, je pense que ce genre de séminaires sont, je dirais, d'une importance capitale. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas véritablement les tests qui régissent en fait ce code numérique. Soyons sincères, soyons honnêtes. Nous, les journalistes, combien parmi nous connaissent véritablement les tests qui régissent en fait le code numérique? Et c'est ça qui nous tue, parce que la loi était claire. On a dit que si tu es journaliste et tu veux écrire un article, il faut écrire dans ton journal. Là, tu es protégé. Mais si tu publies sur les réseaux sociaux, tu deviens un simple citoyen. On t'enlève en fait le titre de journaliste, c'est clair, et on t'applique la loi. Donc, si on le sait ainsi, je ne sais pas pourquoi nous allons nous ruer vers les réseaux sociaux pour écrire. Parce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des citoyens lambda écrivent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que nous qui sommes journalistes, nous n'allons pas nous départir en fait de ces gens-là? C'est la question qu'on se pose. C'est vrai que... Donc, pas du tout. Ce n'est pas se départir des réseaux sociaux. Mais il faut savoir quoi écrire, malheureusement. Parce que nous devons nous départir en fait de ces citoyens-là qui aujourd'hui, je dirais, sont des journalistes sans griffes, qui font des publications pas possibles. Donc, nous sommes des journalistes. Nous devons donc dire que nous sommes vraiment des responsables et savoir quoi écrire. Parce que la preuve, nous avons un confrère qui a été coffré, dont le procès était pour ce mercredi. Dieu merci, on a eu une médiation et l'intéressé est parti retirer sa plainte et il a été libéré hier. Voyez-vous? Parce que devant le juge, qu'est-ce que le juge lui a dit? Est-ce que tu as publié ça dans ton journal? Il a dit non.
Vous parlez de quel confrère précisément?
Notre confrère Charles Honvor, qui a été donc coffré depuis. Et normalement, aujourd'hui, c'était le procès. Voyez-vous, mais devant le juge, on était là. Le juge lui a demandé, est-ce que tu as publié ça dans ton journal? Si tu publies dans ton journal, c'est que tu as su d'être libéré. Mais il a dit non, qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Et on l'a déposé. Donc c'est nous-mêmes, en fait, qui commettons ces erreurs-là. Il faudrait qu'on connaisse véritablement les tests qui régissent, en fait, le code numérique pour éviter le pire.
Mais dans le même temps, la loi est silencieuse sur ce secteur-là qui est florissant aujourd'hui dans les médias sociaux.
En fait, qu'est-ce qui a été dit? Si vous avez un journal digne du nom, reconnu par l'État, d'accord, et vous êtes sûr, en fait, de faire des publications sur les réseaux sociaux, il faudrait désormais que ce journal ait une ligne, d'accord, une ligne reconnue par l'État. Et là, vous pouvez faire des publications. Mais si ce n'est pas reconnu et vous publiez comme vous le voulez, c'est à vos risques et périls. Voilà ce que la loi dit. Donc, il faudrait effectivement qu'on fasse ce genre de séminaire pour donc s'approprier en fait du contenu. Parce que vraiment, comme il a dit, il a parlé de diable. Bon, je dirais en fait que ce sont des pièges qui sont au sein de cette loi. Et si nous ne maîtrisons pas en fait cette piège-là, nous allons nous retrouver chaque fois. Et en fait, c'est des erreurs de dilatation. Nous allons nous retrouver chaque fois devant le juge et on va nous coffrer.
Nous revenons sur le sujet qui occupe les médias depuis quelques mois, le coronavirus. Aujourd'hui, le Bénin approche les 1000 cas, titre Matin Libre.
C'est un problème vraiment très, 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 très récurrent. C'est la première fois qu'on a eu donc une pandémie, un mal du siècle qui a même bloqué et tout le monde. Même les églises sont fermées, étaient fermées pendant plusieurs mois, les mosquées et consorts. Donc, vous allez constater que depuis donc la levée du cordon sanitaire, ça a pris de l'ampleur. Voyez-vous, ça a pris de l'ampleur. Donc, moi, je pense que les autorités doivent penser, à la réinstallation de ces cordons sanitaires pour éviter le pire. Parce que là où nous allons, le mal sévit, le mal est là. Et je pense que les grandes villes qui sont touchées, il y a également l'OME. Quand je parle de l'OME, nous sommes à Porte-Novo. Il y a également ce mal ici à Porte-Novo. Donc, méfions-nous-en. Il faudrait forcément qu'on installe le cordon sanitaire pour éviter le pire. Mais parler donc de la fermeture des églises et consorts, je ne pense pas, parce que nous avons eu quand même à parcourir jusque dans le plateau depuis plusieurs dimanches déjà. Comment ça se fait au niveau des églises? On a eu donc les protestants, les célestes et consorts. Je vous assure que à ce niveau-là, les mesures sont rigoureusement respectées. Quand tu es infidèle et tu n'as pas ton masque, tu ne rentres pas dans le temple. Et c'est à la sortie, en fait, que ces populations-là, en fait, enlèvent le masque et commencent par faire des désordres. Vous allez voir, circuler dans la ville, vous allez constater que les citoyens ne portent même pas de masque. Et c'est au niveau des institutions et également au niveau de ces églises-là où ils vont la messe qu'ils portent. Mais au retour, ils ne le font pas. Donc, c'est dans la ville, en fait, au niveau de la circulation, au niveau de la ville, que ça se passe. Donc, le contact se fait au niveau de la ville. Ce n'est pas la fermeture des églises qui fera la fête.
Mais déjà, comment expliquez-vous cette résurgence-là? Comment expliquez-vous le fait que le taux grimpe d'un cran comme ça au Bénin pendant qu'on était en train visiblement de maîtriser la crise?
Oui, je parlais tout à l'heure du cordon sanitaire parce que il y a nos frontières qui sont poreuses, ne l'oublions pas. Des gens quittent le Nigeria. Aujourd'hui, il y a plusieurs cas au Nigeria. Donc, si un Nigérian passe donc les frontières pour venir au Bénin avec la maladie, automatiquement, il va donc endommager tout l'environnement où il vient s'installer. C'est ça en fait qui se passe. Donc, il faudrait désormais intensifier la sécurité, mettre sur pied donc le cordon sanitaire et éviter le pire.
Josaphat.
Moi, j'ai toujours peur pour le Bénin. Peur parce que selon les épidémiologistes, le Bénin n'a pas encore le pic. Il prévoit le pic dans la première quinzaine du mois de juillet, ce qui veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Aujourd'hui, nous avoisinons 1000 cas, ce qui veut dire qu'en fait que ça évolue et que nous n'avons pas encore le pic, alors que nous ne sommes qu'au 24 juin. Si les spécialistes envoient déjà le pic dans la première quinzaine du mois de juillet, alors on doit faire beaucoup attention. Mais je crois qu'on peut éviter, et on peut éviter, ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de comment nous nous comportons, ça dépend de comment nous voyons déjà le mal. Et le vrai problème, c'est qu'au niveau de la population, au niveau de l'opinion publique, il se dit beaucoup plus souvent que le mal n'existe pas. ils n'ont pas encore foi, ils n'ont pas encore cru en la maladie. C'est-à-dire pour eux, la maladie n'existe pas, c'est une invention des Blancs, c'est une invention des dirigeants pour prendre, bien sûr, l'argent des institutions de Bretton Woods. Et pour eux, pour ces citoyens, c'est qu'on peut se passer, on peut pas se faire comme des ninjas et circuler. Donc, la population, dans sa majorité, ne croit pas encore à la maladie. Et je crois que sur ce niveau, il faut mettre beaucoup plus l'accent, mettre l'accent sur la sensibilisation pour prouver à des gens, mais même la communication qui se fait autour du nombre de contaminés, de cas confirmés, même la communication qui se fait autour du nombre de morts, et la population se dit toujours non, mais ce n'est pas encore ça. Moi, j'ai eu à discuter avec un cadre béninois il y a 2 jours environ, et il me disait qu'en fait, que oui, si vous êtes là, en fait, la communication sur le coronavirus, alors qu'au même moment, il y a le palu qui tue, au même moment, il y a l'hépatite qui tue, et au même moment, il y a l'hypertension qui tue et tout le reste, et que vous vous focalisez sur le coronavirus, alors que le chiffre est très minime par rapport à ce qui se passe avec le palu et bien d'autres maladies et pandémies. Je me dis, mais si un cadre le dit de cette façon, alors comment le citoyen lambda pourrait quand même comprendre que le mal est là, existe, ses vies et tue. Du coup, ça pose un problème. Et de l'autre côté également, vous avez vu nos dirigeants, surtout après la campagne électorale. Je sais bien que ce qui s'est passé, c'est peut-être la cause de la campagne électorale. Mais vous avez vu après même la campagne électorale, la ferveur, les élections, et au niveau de des passations des charges au niveau de nos mairies, vous avez constaté que des conseillers ou des nouveaux maires entrant, sortant, qui se donnaient des accolades, qui se saluaient sans masque, et nous qui sommes journalistes, nous mettons notre caméra, nous les filmons, nous les diffusons sur nos médias, alors que la population croit beaucoup plus à ce qu'elle voit à la télé et ce qu'elle entend à la radio. Donc si déjà vous voyez un dirigeant, celui qui veut vous diriger dans votre commune, qui se fait une accolade avec son conseiller et qui se salue, alors qu'au même moment vous lui dites ne vous serrez pas la main, ne vous faites pas des accolades, évitez de vous rapprocher, alors qu'au même moment déjà se sont rapprochés. Donc, il y a un problème, il y a un décalage communicationnel à ce niveau qu'il fallait corriger. Mais malheureusement, ça a été le cas. La communication, c'est beaucoup plus à la sensibilisation, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, c'est ce que vous faites déjà en abordant le sujet, et c'est déjà encouragé. Chacun doit quand même comprendre que sa vie dépend de l'autre et que la vie de l'autre dépend également de lui. Si nous voyons déjà le sujet de cette façon, nous voyons la problématique de cette façon, ça va quand même limiter un peu les dégâts. Aujourd'hui, vous avez dit que des gens circulent sans masque. Oui, on circule avec masque parce qu'on a peur peut-être de se faire choper par un policier pointé à quelques mètres. Et on porte maintenant des masques parce qu'on a peur qu'au prochain tournant, le policier vous arrête. Sinon, si on enlève ça, vous allez constater que les gens ne vont jamais porter. Aller dans les villages, aller un peu à Djoum, à Bonou, à Wenhi, à Zanyanando, à Dassazou, mais vous allez constater qu'en fait, qu'il y a des gens qui circulent librement. Moi, ma grand-mère au village, peut-être dans les fins fonds à Perere, ne sait pas si elle doit porter de masque pour sortir de chez elle pour aller au marché. Et quand on parle, je parle même de marché, vous voyez déjà la masse de ces femmes-là, vous voyez déjà comment elles s'agglutinent au niveau des marchés. Quelle que soit la sensibilité que vous allez faire à ce niveau, ça ne peut jamais marcher parce que la femme va au marché, elle revient, et quand elle revient, vous savez qu'il faut 14 jours, elle peut contaminer la famille en surtout contamine. C'est toute une chaîne. Je crois que la sensibilisation doit être beaucoup plus faite, et je remercie tous ceux-là qui sont dans la sensibilisation, et également l'État central qui, malgré tout ce que je peux dire, même si je ne suis pas encore satisfait, essaie de faire ce qu'il peut.
Est-ce que vous pensez, comme Martial, qu'il ne faut pas soupçonner les églises dans ce retour en force du virus, de la contamination chez nous?
Non, j'ai bien envie de dire ça, mais je me dis, les statistiques aujourd'hui montrent quoi? Parce qu'il y a aussi ce drame, le ministère béninois de la Santé ne nous donne plus les statistiques détaillées de ce qui sont ceux-là qui sont plus contaminés. Dans le rang des près de 1000 cas confirmés que nous avons aujourd'hui, qui sont ceux-là qui sont en majorité, est-ce des enseignants, est-ce des fidèles dans une église donnée? Est-ce les pasteurs, les responsables religieux qui sont ceux-là? Nous, nous voulons les connaître, mais aujourd'hui, nous n'avons pas les statistiques détaillées de ces cas confirmés. Donc, il me sera difficile de dire que le mal est beaucoup plus dans les églises, alors que chez vous, dans votre chambre, le mal est là et vous ne savez peut-être pas. Donc, interdit peut-être. Moi, je suis peut-être pour qu'on réinstaure le cordon sanitaire, qu'on prenne d'autres mesures restrictives, peut-être limiter un peu, en tout cas, même si vous parlez des églises, mais vous oubliez les bars. Aujourd'hui, aller dans les bars, c'est comme une grande fête. Des gens se retrouvent, c'est-à-dire deux mois de privation de plaisir alcoolique. Vous trouvez des gens qui se disent non, mais c'est déjà la fin. On dirait que c'est une décennie, donc on revient et on est ressuscité en quelque sorte. Donc il faut fêter ça. Non, mais je crois que la conscience devrait être d'abord individuelle avant d'être collective.
Merci à vous, Josaphat. Sur la question toujours, il y a un mal qui voit le jour dans le confinement, pendant le confinement, et le journal Matin Libre en fait cas. Confinement dû au coronavirus dans le mono, 57 cas de grossesse dans ce département.
Ben, on parlait déjà de la montée fulgurante de ces cas de grossesse avant le confinement. Donc, je ne dirais pas que c'est lié forcément au confinement de la pandémie du coronavirus, parce que déjà, même l'année passée où il n'y avait pas coronavirus, on a constaté qu'il y a plusieurs cas de grossesse. Pas seulement dans le mono, même au nord, à Natitengu, Djougou, même à Porte-Novo ici, il y a plusieurs cas de grossesse. Donc, ce cas au confinement, je ne pense pas.
Quand les élèves sont à la maison, tout le monde est à la maison, et ça ne peut pas avoir une incidence
Malgré que ces enfants soient régulièrement à l'école, on a eu déjà à constater que ces cas ont grimpé. Donc, confinement, non. Moi, je ne pense pas. Il y a plusieurs cas. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Plus que ça. Bon, on m'a envoyé à Djougou pour une mission d'inspection où j'ai eu affaire deux mois. C'est dans le cadre de l'ONU SIDA où on a eu à parcourir plusieurs collègues. Mais je vous assure, on a eu 700 cas de grossesse.
Pendant le confinement?
Non, du tout pas. Pas pendant le confinement. 700 cas de grossesse en l'espace de 4 mois. Voyez-vous?
C'est énorme, ça.
C'est énorme. Voyez-vous? Donc, parler de confinement comme ça, moi, je ne pense pas. Les cas de grossesse sont très, très récurrents. Je pense que la lutte qu'on devait mener, parce que le programme des Nations Unies pour le développement, lié à l'UNICEF, avait voulu, en fait, qu'on mène une lutte efficace contre le zéro grossesse, en milieu scolaire. C'était dans ce cadre qu'on était parti pour ces missions d'inspection. Je pense qu'on doit intensifier. D'accord, cette lutte de zéro grossesse en milieu scolaire plutôt que de parler de confinement. Parce que les filles vont à l'école, mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand elles quittent la maison et elles sortent, elles ont déjà leur jupe ou bien leur robe dans le sac. Et au lieu d'aller au cours, elles portent déjà leur robe ou bien leur tenue. Et directement, elles rentrent dans un véhicule. Et c'est les âgés en fait qui font l'opération parce qu'elles ont besoin d'argent frais. Voyez-vous? Donc elles rentrent dans le véhicule, elles font leurs bêtises et les parents croient qu'elle est au cours. Voyez-vous? Au retour, elles achètent de n'importe quoi, moi je dirais, des objets en fait pour convaincre en fait leur maman à la maison. Et les mamans aussi sont complices, donc les parents également sont complices dans cette situation-là. Mais parler de cas de confinement à ce niveau-là, je ne pense pas.
Josaphat, Martial trouve qu'il ne faut pas lier ces cas de grossesse au confinement.
D'abord, je voudrais rectifier avec votre mission qu'on n'a pas été confiné au Bénin. On a eu juste des mesures restrictives. On a limité un peu le déplacement, mais un confinement, on n'a pas connu ça.
Si il y a des pays qui ont vraiment connu. Fermées, les élèves étaient à la maison.
Oui, mais peut-être que c'est un cas. Ça fait pas être des mesures restrictives parce que déjà, on a demandé aux élèves, aux apprenants de rester chez eux afin de limiter. Mais rester chez nous ne veut pas dire qu'on était confiné. C'est un autre thème qui est beaucoup plus compliqué. Heureusement, les Béninois n'ont pas vécu ça.
Tout à fait.
Mais je peux quand même pas dit que c'est à cause de rester à la maison là qu'il y a ça, mais alors pourquoi pendant les vacances on dénombre toujours des cas de grossesse, pourquoi pendant les congés on dénombre toujours des cas de grossesse? Donc, c'est des gens qui déjà n'ont pas pu quand même prendre les précautions nécessaires, sinon l'envie sexuelle est toujours là, le plaisir sexuel demeure toujours, et ça dépend de l'éducation également, ça dépend de comment des gens essaient de voir un peu la vie à leur niveau. Et quand vous parlez également de la responsabilité, c'est Martial qui l'évoquait, vous parlez de la responsabilité des parents, je dirais que c'est en partie dû un peu à la pauvreté également, au niveau de vie dans les familles. Aujourd'hui, il est compliqué pour un citoyen avec un foyer, un ménage modeste d'avoir 3 repas par jour. Et dans ces conditions, vous n'avez même pas un repas par jour. Vous ne savez même pas quoi manger le lendemain ni le surlendemain. Et que vous avez une jolie nana qui est votre, qui s'avère être votre fille à la maison et qui peut avoir l'opportunité de tomber sur un gros taux qui pourrait lui signer des chèques. Ce n'est du tout pas conseillé, mais c'est malheureusement le phénomène que nous vivons et que les parents se disent si elle revient avec quelque chose, on s'en contente et on oublie qu'en fait que la fille a fait peut-être de n'importe quoi parce que la fille se dit moi je suis née dans une famille où mes parents ne sont même pas à même de me satisfaire alors que je peux quand même user de mon charme pour avoir quelque chose, alors on en profite. C'est vraiment dommage, c'est lié à la pauvreté, en tout cas les statistiques montrent que à ce niveau il y a beaucoup plus la pauvreté, le niveau de vie, mais le cas de grossesse que nous dénombrons, ce n'est pas seulement à Mono dans ce département, il y a également ça dans d'autres départements du Bénin. Ce qui est essentiel, c'est que j'ai constaté même, je me réjouis du fait que ça ait chuté. L'année passée, vous avez vu le nombre déjà évoqué à de pareilles circonstances. Donc au moins, je dirais, les mesures restrictives qui ont permis de rester à la maison fait que nous n'avons pas dénombré assez de cas comme ce fut l'année passée ou les années antérieures. Et de toutes les façons, chacun doit prendre sa responsabilité, chacun doit jouer son rôle et savoir qu'en fait, qu'au-delà de tout, nous devons quand même être conscients de ce que des actes que nous posons et que la planification, si l'envie vous tente, la planification, ça ne coûte pratiquement rien. Il faut le faire si vous voulez vraiment jouer du plaisir, c'est sûr.
Rapidement, un dernier tour de table pour finir sur la question du coronavirus. Josaphat, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire en 2 secondes?
Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Portez le masque nécessaire. À chaque fois, si vous ne pouvez pas rester à 1 mètre de votre interlocuteur, placez votre masque et essayez d'éviter les accolades et tout le reste. Je crois que la responsabilité, comme je l'ai dit, est d'abord individuelle avant d'être collective. Donc, chacun doit jouer sa partition pour qu'ensemble, nous puissions bouter hors de notre territoire béninois et ce virus, cet ennemi invisible.
Martial, sur la même question.
Oui, il faut juste respecter donc les gestes barrières et suivre rigoureusement les recommandations du gouvernement. C'est très important parce que d'abord, quand on parle de la vie, c'est la vie individuelle d'abord avant celle collective. Donc, j'invite cette population béninoise à respecter véritablement les mesures barrières pour éviter ce mal du siècle qui sévit sérieusement dans notre pays.
Merci à vous, chers confrères. Que dit la presse de ce jour? C'est déjà la fin. J'étais avec en studio Josaphat Dabolino, journaliste à Crystal News. Martial Agolé-Abo, journaliste au quotidien Le Matinal. Jean-Luc Gadji, j'étais à la présentation avec la coordination technique de Ghislain Abangba. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre rendez-vous de Que dit la presse ?